Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine de Vivante Église. Ô Jésus de grâce, change-moi, Seigneur, libère-moi de moi. C'est un deuxième épisode de cette série pour ce mois de Vivante Église. Dans quelques instants, vous pourrez découvrir donc mon invité. Bonjour Daniel Desbois.
Bonjour. Nathalie.
Alors on vous retrouve tout ce mois-ci dans ces magazines de Vivante Église. Vous êtes auteur d'un livre qui est paru récemment qui s'intitule, et je viens de donner le titre, « Ô Jésus de grâce, change-moi, Seigneur, libère-moi de moi ». Vous avez plus de 40 ans d'expérience en tant que psychologue. Ce livre a deux approches avec... plein de chapitres, une première approche psychologique et une deuxième approche spirituelle. Alors aujourd'hui, je voudrais vous interroger sur en fait ce petit être qui est devenu adulte avec parfois, et vous en avez parlé la semaine dernière, une personnalité qu'il s'est forgée. Une fausse personnalité, et il devra entrer, car il se rebelle parfois, dans un chemin et parfois long, et une aventure de changement, de conversion pour arriver à cette découvrir et peut-être se réconcilier, mais on en parlera peut-être un peu plus tard, avec sa vraie personnalité. Il lui faudra du temps pour se réconcilier. C'est pas l'objet. Je voudrais vous interroger en tant que psychologue aussi sur ce petit être qui grandit, qui devient adolescent, qui devient adulte, un homme, une femme, avec son histoire, ses blessures, et puis cette fausse personnalité, ses camouflages, ses mensonges, etc., etc. Il y a aussi, chez ce petit être devenu adulte, et là je pense, chers auditeurs, à vous tous qui nous écoutez peut-être maintenant, vous souffrez peut-être de solitude. Cette solitude est un état, on parlait aussi de l'épreuve, qui est parfois douloureux, Daniel Desbois. Alors, comment comprendre cette solitude qui prend toute la place, qui m'empêche d'entrer dans la vie et de vivre, et je survis?
Mais déjà, il faut avoir conscience que je suis dans la solitude. Parce qu'il y a des personnes qui s'étourdissent pour ne pas être seules, qui vont aller à droite, à gauche, faire des activités de ceci et de cela. Alors je ne dis pas que c'est mal, peu importe, hein, je sais pas ce que je dénonce là. Je dis simplement des personnes qui peuvent masquer, mais sans s'en rendre compte, hein, qui peuvent masquer un fond de solitude, c'est-à-dire un fond de douleur, de tristesse, de je ne sais quoi, hein, d'épreuves hein, dont elles n'ont peut-être pas conscience, parce qu'elles vivent bien au travers de leur activité et souvent leur suractivité, pour masquer. C'est là où il y a la fausse personnalité. Et puis il y a les personnes qui en ont conscience de leur solitude et qui en souffrent. Et c'est vrai que c'est les moments les plus durs dans la vie quand on se sent seul. Parce que l'homme n'est pas fait pour être seul. C'est biblique en fait. Hein. L'homme n'est pas fait pour être seul. Et quand il se retrouve seul, il est complètement démuni, mais on peut être seul à côté de l'autre hein, aussi. Dans un couple, par exemple. Hein. Dans un couple, il peut y avoir des difficultés de... Voilà, en ce moment, il y a des difficultés de couple et on ne se comprend plus. On s'est compris, on s'est aimé. On est dans un face-à-face aujourd'hui avec un grand mur qui nous sépare. Et chacun est dans sa solitude en dénonçant, bien sûr, l'autre de ne pas faire ce qu'il faut. C'est-à-dire de lui donner cette part, au fond, d'amour. Enfin, on est toujours en quête d'amour. Hein. Et donc, en plus, dans un couple, s'il a vraiment envie de se reconstituer, le couple, de se restaurer, ben, il va y avoir une sacrée gymnastique pour pouvoir faire tomber ce mur afin que l'amour recircule. Mais ce qui se passe, la plupart du temps, je me rends compte que la plupart du temps, quand il y a des difficultés dans un couple, étant donné qu'on dénonce toujours l'autre, ce qui est normal, c'est à cause de toi que je suis pas bien, que je suis malheureux, je suis déçu, alors qu'avant, non, ok, d'accord. Et ce qui se passe, c'est que, en principe, quand il y a une solitude qui est vécue à cause d'eux, obligatoirement il y a de l'agressivité qui se met en place. Obligatoirement. Alors soit elle s'exprime, soit elle ne s'exprime pas et elle autodétruit la personne. Jusqu'à y compris rentrer dans une tristesse. Au départ il y a de la colère, puis qui devient tristesse et qui devient douloureuse parce qu'elle perd la vie. Ce à quoi elle est faite, ce pourquoi elle est faite. Vivre et dans l'amour, elle n'a plus rien. Et il y a des couples, quand ils sont en difficulté, ils ont un passage qui se fait comme ça, quoi, où c'est l'agressivité qui est dominante. Et l'agressivité va s'exprimer contre l'autre, puisque je vais lui demander de changer. Mais l'autre, il rétorque au mal par le mal, et il va attaquer. Et en fin de compte, on est en situation de guerre. Comment l'amour peut circuler? Deux personnes qui sont dans la solitude à cause d'eux, entre guillemets, hein, à cause d'eux, état de guerre, et on veut régler le mal par le mal. Et en fait, le mal, il ne peut se régler que par l'amour. Mmh. C'est-à-dire, si l'amour revient, obligatoirement, la pression tombe. Mais alors, on me dit, oui, mais alors, ça ne peut pas marcher, dans la mesure où l'autre ne peut pas me donner l'amour, la part d'amour, que, évidemment, c'est sûr que ça devient difficile. Donc, et puis alors là, ça peut perdurer, l'état de guerre des deux côtés. S'il n'y en a pas un qui va lâcher, vous savez, c'est comme dans une corde. Il y en a un qui tire, plus il tire, plus l'autre tire, plus l'autre tire, plus moi je tire, plus tu tires, plus je tire. Mais on s'en sort pas.
En fait, on est œil pour œil, dent pour dent.
Et dent pour dent. Donc, il y a un moment, il va y avoir épuisement. Et puis, pour éviter la lutte, qu'est-ce qu'on fait? On va couper la corde et on se sépare. On n'est plus en lutte. Mais après, ça fait des divorces, ça fait des souffrances supplémentaires, etc. Puis après, il y a les répercussions chez les enfants, hein, bien sûr, obligatoirement. Mais ce qui veut dire que quand il y a une tension, là, avec la, je reprends l'image de la corde, il y en a un qui tire, l'autre qui tire, et à un moment, il y en a un qu'il faut, qui lâche. Et l'autre, il va tomber d'ailleurs. À la limite, s'il n'y a plus d'effort, il est coincé, il est obligé de lâcher quelque part. Ou alors, il va être encore plus agressif. Je pense à des couples où justement, il y en a un qui est par terre et l'autre va en profiter pour essayer de l'achever. Mais ce n'est même pas méchant. C'est de l'ordre de l'amour. Derrière, on va dire, mais attends, il est en train de tuer, tu dis que c'est de l'amour.
Donc dans la guerre, il y a de l'amour aussi. Dans l'amour, il y a parfois aussi de la haine, et dans la haine, de l'amour aussi.
Et voilà, ouais. Et c'est ça l'épreuve.
C'est un doux mélange.
C'est un doux mélange, mais alors comment on s'en sort?
Eh oui.
Comment on s'en sort?
Comment sortir victorieux? Parce que là, on est sur un champ de bataille, on parle de tension, on parle bien de règlement de compte, au fond.
Hein. Oui,
et parfois, dans un champ de bataille, il y a l'ennemi et qu'on veut, on veut prendre possession de cet ennemi jusqu'à le détruire. Alors, comment se sortir un peu de ce cercle un peu à répétition, ce mécanisme à répétition, sortir de ces tensions, de cet état de guerre, au fond?
Alors, pour sortir de la lutte du mal contre le mal, il faut qu'il y en ait un qui essaie ou qui met en place ou qui décide de mettre en place le refus de continuer à faire du mal et de rentrer dans une forme et puis après dans une réalité d'acceptation de l'autre qu'il arrive à dire je vais pas pouvoir le changer. Oui, mais alors qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et c'est là qu'il y a l'épreuve, la plus grande épreuve, ça va être pour celui qui cède. Mais et c'est toute la difficulté, c'est arriver à céder par l'amour. Et en fin de compte, arriver à dire, mais l'autre, s'il est comme ça, c'est parce qu'il souffre. Et moi, je sais que je souffre aussi. Mais je veux pas le tuer. J'ai pas envie de le tuer, l'autre. Je voudrais le retrouver. Et c'est là essayer de rentrer. Je sais que c'est pas évident. On a besoin de parler. Donc on va voir quelqu'un. On va voir quelqu'un, un médecin, un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute, un prêtre, un ami, une oreille bienveillante. Et on a besoin de parler pour pouvoir déjà faire tomber la tension. Alors après, il ne faut pas qu'il y ait trop de vis-à-vis, parce qu'il y en a, ils vont avoir des idées d'un côté, les autres de l'autre, et puis la personne est paumée. Là, hein. Il vaut mieux en avoir qu'un, de manière à être bien accompagné, en fait. Même si c'est un frère, une sœur, un ami proche, vous voyez. Il faut avoir un même discours qui convienne. Mais dans la mesure où la personne a fait le choix de dire « je ne veux plus continuer la guerre, je veux chercher déjà la paix intérieure pour moi », comment faire? Donc elle a besoin de parler pour vider le sac. Et à un moment, il faut arrêter de parler de ce qui ne va pas. Mais de comment ça pourrait se passer pour que ça soit mieux, pour que ça soit bien. Et là, l'amour, on va aller le chercher. Mais là, je m'adresse aux chrétiens, évidemment. Évidemment. Ça veut dire qu'après, je vais aller chercher vraiment Dieu, peut-être comme jamais je n'ai été le chercher. Et ça, c'est l'expérience de Dieu. C'est au moment où j'ai un genou à terre, l'autre genou à terre, que je commence à mordre la poussière, que je dis « Seigneur, relève-moi ». Et là, je suis dans une humilité obligée, parce que je fais le choix de ne plus me battre. Quand je me bats, je suis debout. J'ai les armes, j'ai les grenades à la main, le couteau entre les dents, je me défends. Là, je suis par terre. Et je fais sans faire exprès l'expérience de l'humilité. Et c'est là où le bon Dieu me dit « Coucou, je suis là ». Il m'attend. Mais je ne sais pas qu'il m'attend. Et en fait, je le comprends quand je suis par terre. Et là, je vais tout doucement me laisser imprégner de son amour pour tenir. Je dis bien pour tenir parce que l'autre peut continuer à mettre à l'épreuve ma situation de pauvreté extrême. C'est vrai que c'est difficile de ne pas répondre. C'est vrai que c'est difficile. Mais je me rends compte, là aussi par expérience, que c'est souvent un lieu de victoire. Très souvent. Parce qu'en fait, c'est pas moi qui ai la victoire, c'est le Christ qui a la victoire en moi. Il n'y a que lui qui peut gagner la guerre, moi non. Mais dans la mesure où je peux rentrer dans cette phase justement d'abandon entre les mains d'un autre, qui m'aime et qui n'est qu'amour, vous savez, un couple c'est un système. Dans le système, il fonctionne de manière équilibrée en fonction des personnalités de l'autre, du tempérament, des tempéraments, voilà. Mais quand il y en a un qui change de trop, alors dans une situation où les deux sont en guerre, tout d'un coup, il y en a un qui n'est plus en guerre. Ça met le bazar. Ça déséquilibre l'autre. Donc on essaie de prendre dans ce bras de fer, c'est plus force contre force, c'est force contre faiblesse extrême avec la force de Dieu. Et là, ça fait bouger le système autrement. Peut-être que ça va prendre du temps. Il ne faut pas croire que... Alors, des fois, ça peut changer de suite. Mais ce qui va être important pour la personne qui lâche, que par la grâce de Dieu, elle envisage le pardon pour l'autre. Seigneur, je te demande de lui pardonner. Je te demande de lui pardonner. Et je te demande de me pardonner aussi. Pour le mal que j'ai pu lui commettre, lui causer. Vous voyez, le mal, il y a le mal commis, hein, quand on est en état de guerre comme ça. Le mal subi par l'autre, mais le mal commis aussi, puisque j'attaque l'autre. Et donc, vous voyez déjà sortir par le pardon que Dieu efface.
Donc, on entend bien que l'une des clés est cette dimension au fil de l'aventure qui peut s'avérer aussi être un vrai champ de bataille.
Absolument,
un vrai
absolument.
Champ de guerre. Il y a des portes de sortie et en particulier, oui. Vous venez d'annoncer aussi cette démarche aussi de pardon.
Cette démarche de pardon qui est fondamentale, vous voyez. Et c'est comme ça que petit à petit...
Et si ce pardon, en fait, on ne peut pas le poser, Daniel. Je pense à ceux et celles qui vous écoutent, qui sont peut-être en pleine crise et sur un champ de bataille dans leur vie conjugale ou dans les familles qui aussi traversent un champ parfois miné où ces pardons ne sont pas donnés, où on résiste et puis avec aussi, on l'a évoqué la semaine passée et aujourd'hui, cette fausse personnalité qui n'est pas la vraie personne, qui n'est pas encore libérée totalement. Ouais. Comment peut-on arriver à être et à sortir de ce champ de bataille miné, cette guerre profonde dans cet état de fausse personnalité. Je n'ai pas encore fait la vérité avec moi-même. Je ne suis pas encore réconcilié avec moi-même. Comment poser l'acte de pardon?
Mais c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté. Le pardon, c'est une aventure. Hein. Alors, il faut savoir que le pardon, quand dans un... Bon, je reprends l'exemple du couple. Hein. Quand je suis dans une démarche de pardon, je veux lui pardonner à l'autre. Il faut voir que l'autre a le droit de ne pas accepter le pardon. Il peut, la réconciliation, c'est les deux qui se demandent pardon. Le pardon, c'est il n'y en a qu'un qui veut bien rentrer, qui veut bien dire à l'autre, il ne va pas lui dire comme ça je te pardonne parce qu'il va le mettre, ça va le mettre en colère encore plus. Mais au moins intérieurement, je veux accepter que peut-être il souffre et je veux accepter de lui pardonner. C'est ça qui ouvre le cœur. Mais il ne faut surtout pas lui dire je te pardonne. Ça, c'est une insulte. Je peux vous le dire de suite. Hein. Il ne faut pas le faire, ça. Donc,
c'est une communication violente.
C'est une communication violente. Hein.
Donc, ça, c'est aussi un des points importants.
Voilà, mais c'est pour dire que l'autre peut refuser la réconciliation. Mais que ça soit pour moi, et là ça va être important, donc je fais une petite parenthèse spirituelle, dites-vous bien que quand on a la possibilité qu'on est engagé chrétiennement, c'est là qu'il va y avoir une source de sanctification, justement parce que je suis sur la croix, et que l'autre est en train de me crucifier, et moi je veux l'aimer, et là je suis comme le Christ. Et si je le vis en tant que chrétien, là le Seigneur, il me sanctifie. Alors, c'est-à-dire, je pars d'une situation de guerre, et en même temps, la situation de guerre et d'épreuve va être une source de sanctification. C'est très beau. Je vois qu'il y a des personnes, justement, dans les couples, et c'est cette sanctification qui, à un moment, va terrasser l'amour, va terrasser l'autre. C'est arrivé.
Donc, l'amour aura le dernier mot.
L'amour aura le dernier mot. L'amour est toujours vainqueur. Mais l'autre peut, à un moment, peut partir aussi. Ça arrive. Vous voyez, mais je me rends compte que c'est rare. Quand la personne arrive à tenir, qu'elle se laisse sanctifier par le bon Dieu, l'autre, il finit par être allumé. Il finit par être touché.
C'est un peu le constat. C'est l'expérience que vous avez.
C'est l'expérience que j'ai, oui.
Parce que des couples, en fait, les familles sont en guerre, les couples sont en guerre.
Oui,
45% de divorcés remariés, c'est un peu affolant, on ne donne même plus les chiffres. Ça dit bien aussi la difficulté de l'humain dans son humanité, dans
bien
sa
sûr,
psychologie, dans
sûr.
Sa fragilité,
bien
dans
sûr.
Sa vulnérabilité. Quelle est la solution pour traverser tous ces états, au fond, Daniel Desbois? Et là, je rappelle que vous êtes psychologue et que vous avez plus de 40 ans d'expérience. Quel est le bilan aussi de tout le travail et puis de toutes les rencontres que vous avez pu avoir jusqu'à ce jour? Qu'est-ce qui vous fait dire que cette psychologie blessée de l'homme peut, au fond, être au fond, victorieuse face à toutes les détresses du cœur humain?
Eh bien, déjà, dans la mesure où je prends conscience, il y a beaucoup de personnes qui savent que, du fait de leur histoire, elles ont été blessées. Elles ont été blessées, elles ont des marques aujourd'hui, elles ont 20 ans, 30 ans, 40 ou 50 même. Elles continuent à avoir une blessure qui suppure. Et quand une blessure suppure, ça fait mal, malgré tout, parce que c'est pas cautérisé. Donc, ça va être un chemin personnel. Ça va être un chemin personnel qui va amener... Donc déjà par la parole, avoir conscience que je me suis faussement construit du fait de mes blessures d'origine pour lesquelles j'ai dû m'adapter. Je me suis faussement construit, je ne suis pas moi-même. Et quand la personne arrive à prendre conscience qu'elle n'est pas elle-même, elle va se poser la question, mais comment être pour pouvoir être moi-même? Et c'est là que ça va commencer à être positif pour elle, qu'elle découvre des aspects de sa personnalité qu'elle ne connaissait pas ou qu'elle libère. Qu'elle s'autorise à vivre, qu'elle s'autorise à être heureuse. La personne, elle a besoin. Je vois souvent, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles s'interdisent le bonheur, qu'elles s'interdisent la vie, qu'elles s'interdisent la joie. Pourquoi? Parce qu'elles ont été dans un milieu où il fallait pas être joyeux. C'est un milieu de dépressif chronique. Il y a peut-être la mère ou le père qui est en dépression. Et puis, je rigole, mais en fait, c'est pas rigolo, quoi. C'est qu'il y a une dépression, il y a un climat qui est tellement de tristesse qui fait que l'enfant, il n'a même plus le droit de jouer, d'être heureux parce qu'il va se faire gronder, peut-être. Et il comprend qu'il vaut mieux mettre les décibels un peu plus bas. Donc, vous voyez, et elle va se construire comme ça. Et à un moment, elle se rend compte qu'elle a une joie qui est là et qu'elle ne s'autorise pas à libérer. Et souvent, c'est dans des moments comme ça d'épreuve où elle se rend compte qu'elle a conscience, elle a conscience qu'elle n'est pas elle-même et qu'elle peut s'autoriser aujourd'hui à 40 ans d'être heureuse, de faire un autre choix et de dire, mais en fin de compte, je me suis construit faussement sur une blessure, maintenant je veux vivre autrement. Et là, qu'on soit chrétien ou pas.
On se retrouve dans un instant, Daniel Desbois, le temps d'une plage musicale. À tout de suite.
Soif du Dieu vivant, mon âme. soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont
Église, Nathalie Cardon.
Suite de ce Vivant Église, avec vous Daniel Desbois. Alors, on se libère, hein, on va se libérer dans ces dernières minutes d'émission. Au fond, pour entrer et faire le choix, non pas de survivre, mais de vivre, quitter sa fausse personnalité, avec tout ce qui est mensonger, hein, ce côté un peu vitrine d'une visibilité. Et là, je pense aux auditeurs qui vous écoutent, hein, qui, depuis la semaine dernière, avec ces masques, hein, ces faux-semblants, qui fait que cette personnalité qui a peut-être, qui s'est construite en 30 ans de vie, 40 ans de vie, 50 ans de vie, 60 ans peut-être, 70 ans, hein, voire plus, ouais, vous devez peut-être en rencontrer, eh bien, elle a les genoux à terre, vous en avez parlé, et là, c'est le moment au fond, est-ce qu'on peut parler d'un acte d'abandon, on lâche prise,
ouais, c'est ça.
C'est ça.
Je ne suis plus maître de moi-même.
Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle.
C'est la bonne nouvelle. Je ne suis plus maître de moi-même. Et en même temps, c'est douloureux parce qu'on se dit, oui, mais attends...
Mais c'est libérateur. Douloureux, alors, mais dans la libération.
Ça devrait être libérateur.
Ça devrait, mais ça ne l'est pas tout de suite.
Mais non,
c'est
pas
ça.
Tout de suite.
Parce alors, expliquez-nous.
Mais oui, parce qu'en fin de compte, c'est au moment où je suis par terre je suis, en fin de compte, libéré de moi, c'est sûr. Mais encore faut-il que j'envisage, et c'est là que j'ai besoin d'un Dieu bon, que j'envisage que je vais pouvoir crier, tendre la main, et ma main qui sera prise par un autre, le tout autre. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, surtout dans notre société, d'être conduit par un autre. On a l'habitude de se conduire tout seul.
On a besoin de tout contrôler.
De tout contrôler.
À se contrôler soi-même aussi, et voilà, contrôler aussi ceux qui sont parfois autour de nous.
Voilà, et donc, alors ce qui veut dire qu'en fin de compte, ma personnalité est par terre. Le moi est par terre, c'est ce que dit Jean-Baptiste. Il faut que je diminue ou que lui augmente. Ça veut dire que quand je suis par terre, je ne peux pas être plus bas. Donc ça veut dire qu'il y a la place. Alors il y a les personnes, celles qui sont versant croyant, elles vont y mettre la place du bon Dieu petit à petit, elles vont grandir en Dieu alors qu'elles diminuent en elles-mêmes. C'est ça la libération de soi. Et puis il y a les personnes qui ne sont pas du tout dans une foi quelconque, elles sont par terre et puis elles meurent par terre. Elles sont dans un peu, elles peuvent rentrer dans une... Hier j'ai un ami qui est venu. Et puis qui passait, il venait de Paris, bon moi je suis à Toulouse, hein. Donc, c'est un gars qui est plein de vie, il a 47 ans par là, il a une pêche, c'est un musulman, et alors donc il vient me voir en plus en tant que chrétien, et quand je l'entends parler, je dis mais quand même c'est super, quoi. La manière dont il parle, je dis, dans ma tête je me dis ça va être un super imam lui, donc c'est pas le cas, il n'est pas imam, mais... Il serait potentiellement imam, mais ça se ferait un bon religieux. En même temps, parce qu'il me dit, maman était catholique et papa était musulman. Donc, et maman lui a dit, écoute, tu feras le choix de cette orientation ou de cette autre orientation. Et en fait, quand je l'entends parler, je vois, il a une intelligence très très vive, il parle 5 langues. Donc lui, c'est un arabe, hein, il est donc musulman, il a fait le choix... Et puis, je vois cette personnalité qui est tellement belle, et il me dit, tu sais, je suis détruit, moi, à l'intérieur. Tu ne vois que la couche extérieure. Et évidemment, quand il me parle, je dis, mais t'es une belle âme, toi. T'es une belle personnalité. Il me dit, je suis détruit à l'intérieur. Alors, j'essayais de lui demander, mais depuis quand tu es comme ça? Ça fait des années, quoi. C'est-à-dire, à peu près. Dis-moi intuitivement, combien de temps? Oh, il me dit, une dizaine d'années. Il s'est passé quelque chose, là, il y a 10 ans. J'ai perdu ma maman. Et puis là, il se met à pleurer. Et lui, on sent le costaud. Hein, il a les larmes qui coulent. Et il me dit, mais c'est vrai, elle est partie. Et elle m'a laissé tout seul. Et puis après, il me dit, tu sais, il y a un proverbe arabe qui dit, quand la maman meurt, le fils... couche d'or à la porte, c'est-à-dire dehors. Alors je demande, mais pourquoi? Il me dit, parce que l'homme est libre, le musulman est libre, il peut se marier avec quelqu'un d'autre. Mais le fils, il reste dehors. Je dis, écoute, maman est partie, t'es parti avec. Et t'es dans la rue. Et il a fait l'expérience du SDF. Et donc là, il était justement en situation d'être, il est logé par un voisin, là. Je l'ai connu comme ça, très peu, hein. Je le découvre. Hein. C'est un voisin qui l'a accueilli, mais il est en tant que SDF, mais bien propre, bien nickel sur lui. Pour lui, c'est important d'être propre. Mais vous voyez comment justement une vie peut être abîmée, être dans une solitude extrême, profondément. Et puis extérieurement, non, c'est très, très clean, c'est beau, l'intelligence, Vous voyez, pour dire la fausse personnalité... Et comment la vraie personnalité, elle est en dessous et c'est elle qu'il va falloir aider. Il a besoin de Dieu. Et il me dit, je suis tellement content d'être avec toi. Et il me dit, bon écoute, je te propose, comme il va être accueilli par le voisin, là, il me dit, je te propose, un coup c'est moi qui vais te faire une sourate, c'est-à-dire, bref. Et puis toi tu me feras un enseignement de Jésus. J'ai dit, ok. Et je lui dis, la prochaine fois, on priera ensemble. Toi, tu parleras en arabe, parce qu'il parle 5 langues en plus. Je lui dis, mais tu la feras en arabe, parce que tu es musulman, et moi je la ferai avec ma foi chrétienne. Ben, c'est comme ça que j'espère, de tout mon cœur, qu'avec le bon Dieu, que c'est là où il y a les débris, là où il y a le cataclysme, l'ouragan qui est passé, la mort de la maman, qui a tout ravagé, que les pierres vont se reconstituer, mais par la main de Dieu. Pas par la main humaine. Vous voyez, c'est mon espérance, elle est là toujours avec quelqu'un qui est abîmé. Je me dis, il est par terre, il est dans la poussière, sa solitude l'a amené là, mais il n'est pas seul. Parce que tout le monde a le Christ en soi, tout le monde a Dieu en soi.
Il est bon de l'entendre, il est bon que vous le rappeliez là, maintenant, dans ce Vivante Église. Un grand nombre aujourd'hui dans ce monde qui est un peu, je dirais, sans dessus-dessous, hein, les guerres, les cataclysmes aussi, les peurs et puis toutes ces angoisses. Et puis une société qui semble parfois en désordre. Il y a la fragilité de cette humanité, et puis individuelle et collective, mais individuelle.
Oui.
Et là, vous invitez, et merci Daniel Desbois, psychologue certes, vous l'êtes, c'est votre métier, mais vous parlez sans aucun tabou de votre espérance, du ciel, de l'éternité, et puis d'un sauveur, et c'est ce sauveur qui rejoint individuellement chaque être humain, même l'être humain qui est peut-être le plus brisé, et vous en avez rencontré, et écoutez, toujours possible de se relever.
Toujours possible. Ben oui, en plus c'est l'année de l'espérance, hein, donc je ne peux que transmettre. Moi, c'est mon boulot, c'est de transmettre l'espérance.
Au fond, c'est quoi le boulot et quel a été votre boulot, si on devait le résumer? Parce que des cabinets de psychologues, de coachs, de psychothérapeutes, il y en a plein aujourd'hui. Hein, voilà. Donc on frappe beaucoup aujourd'hui à la porte de tous ces cabinets.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
N'y a-t-il pas une limite aussi à la psychologie et puis à l'offre qui est faite aujourd'hui sur le marché? Des êtres souffrent, sont dans la dépression, des idées parfois un peu ténébreuses, suicidaires, et vont frapper parce qu'ils ont besoin d'être écoutés et de parler. Au fond, quels sont les besoins aujourd'hui, avec votre expérience et le constat que vous pouvez faire, quels sont les besoins de l'homme individuellement,
Daniel? Je vais vous répondre très simplement, c'est le besoin de Dieu. Simplement,
on parle de l'amour.
On parle de l'amour, là. Vous savez, rappelez-vous, là, dans la Genèse, rappelez-vous...
Et on y revient toujours.
Oui.
Désolé. Encore une fois, chers auditeurs. Voilà. On ne s'en laisse pas. Rappelez-nous.
Alors, rappelez-vous, dans la Genèse, au moment où Adam et Ève donc, ont chuté, ils ont désobéi à Dieu, ils vont se cacher. Et ils se mettent une feuille de vigne. Donc, ils sont nus. Ils ont conscience qu'ils sont nus, et à ce moment-là, ils se protègent avec une feuille de vigne. Alors on pourrait dire, oui, mais en fait, il y a le Père qui arrive, il y a Dieu qui arrive et qui cherche. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? C'est Adam, où es-tu? C'est ce qu'il nous dit à nous tous les jours. Hein? À l'humanité, à l'individu, il nous dit sans cesse, Adam, où es-tu? Daniel, où es-tu? Nathalie, où es-tu? Vous voyez? Et là, donc... on voit, c'est le père qui vient voir Adam, où es-tu? Il le trouve, il lui dit, mais j'avais peur, on s'est caché. Alors on pourrait dire, ils se sont mis une vigne par pudeur. Non, ils se sont pas mis une vigne par pudeur. Ils sont comme des enfants. Ils sont comme des enfants, des innocents, en fin de compte, qui ont gaffé. Ils ont la trouille, parce que là, comme un enfant qui fait des bêtises à la maison, il y a papa et maman, il y a surtout papa qui va arriver... ils vont se cacher, ils vont rien dire, ils vont peut-être mentir, il va peut-être mentir, et en même temps, il crève d'envie d'être pris dans les bras de son père. Surtout pas qu'il engueule, quoi. Je voudrais tellement avoir d'amour. Eh bien, et alors, c'est rigolo parce que, un jour, il y a une personne qui a demandé à un juif, il lui a demandé, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le fait que Adam et Ève, ils se cachent? Et le juif a répondu, il se cache, et le fait de s'effacer comme ça, ça souligne l'absence de Dieu. La vigne souligne la pauvreté, l'absence de Dieu. Et il dit, ils sont nus de Dieu. J'aime bien cette expression.
C'est joliment dit, ouais.
Ils sont nus de Dieu. Eh bien, il faut bien se dire que nous aussi, quand on est dans la désobéissance, intérieurement, on est nus de Dieu. C'est cette nudité d'Adam et Ève, vous voyez. Donc on a besoin d'être revêtu de l'habit de justice de Dieu. Il est là pour me revêtir du baptême, quoi, vous voyez, de l'habit du baptême. Que je sois recouvert de cette blancheur. Il n'y a que lui qui peut me sortir de là, qui peut me protéger de ma nudité, de ma solitude. Vous voyez, et ça, c'est absolument fondamental. Mais encore faut-il y croire.
Et puis vous rappelez aussi, en rappelant aussi la Genèse, Adam et Ève, cet acte aussi de la désobéissance. On est encore en guerre.
On est
des enfants désobéissants.
On est des enfants désobéissants. Et c'est quand on va pouvoir, par l'humiliation, et l'épreuve c'est ça, l'épreuve est humiliante. Elle est humiliante parce que j'ai pas l'amour que je veux, donc je suis humilié, je vais quémander chez les autres, donnez-moi une petite part d'amour, mais ça suffira pas. Parce que j'ai besoin d'un amour infini, quoi. Vous voyez, et l'épreuve est humiliante, mais c'est en même temps l'épreuve qui va me permettre d'être de plus en plus en vérité avec moi-même, ou alors me perdre. C'est possible, ça peut finir par des suicides aussi. Donc vous voyez, mais en même temps c'est
donc au fond l'épreuve peut être un chemin, vous en parlez aussi dans votre livre, un peu plus tard, un chemin de bénédiction, parce qu'elle va sanctifier la personne qui passe par le feu de l'épreuve, un temps de purification on pourrait dire dans ces termes-là, mais elle peut être aussi un temps de malédiction puisqu'elle peut conduire aussi à mettre fin à ses jours.
Elle peut mettre fin à ses jours, oui. Et là, on n'a pas le droit de condamner, de juger, de critiquer. On n'a pas le droit, qui on est, nous, pour critiquer l'autre qui fait des bêtises parce qu'il est malheureux. On n'a pas le droit de le critiquer. Parce que nous, on n'est pas plus clean, on est autrement. Vous voyez ? Et c'est là qu'il y a, quand on est par terre, on comprend les choses. Quand on a été humilié par l'épreuve et qu'on découvre que... ben, on peut s'en sortir. L'espérance, elle est là. On peut s'en sortir. Peut-être qu'on peut entendre un discours qu'on n'a jamais entendu ou jamais accepté. Peut-être que l'amour existe, que je le porte en moi. Et je vois combien une personne qui arrive à croire qu'au fond, elle est habitée par l'amour, eh bien, elle va s'engager petit à petit. Elle a besoin d'être accompagnée. Quand on est, vous savez, un enfant, on le fait grandir physiquement, mais on le fait grandir en amour aussi. Quand un papa et une maman, ils sont là pour le faire grandir en amour, pour le mettre dans l'espérance et le laisser aller dans la vie. Eh bien, nous, on est là sur terre pour grandir en amour, pour pouvoir être lancé vers le ciel. C'est du même ordre. Mais on a besoin de vivre notre expérience de solitude, notre désert intérieur, pour pouvoir avoir justement cette habitation qui est déjà là, de Dieu en nous. Pour pouvoir dire, mais en fait, c'est dans le désert intérieur, c'est là que Dieu m'attend. Adam, où es-tu ? Adam, où es-tu ? Seigneur, je suis là dans mon désert intérieur. Viens me secourir. C'est ça l'épreuve de Dieu.
Donc il y a cet appel. Dieu cherche toujours son enfant.
Toujours. Il est en attente.
Mais Dieu, dans, je dirais, son infinie bonté, on peut parler de bonté de Dieu, de miséricorde de Dieu. Il laisse cette part de liberté qui est inimaginable, toujours.
Ouais.
Il ne force pas.
Non, jamais. Dieu n'est pas fort face à l'homme. C'est l'homme est plus fort
quelque
que
part,
Dieu.
On peut dire que Dieu est vulnérable face à l'homme.
Il n'est que vulnérabilité, Dieu. L'amour n'est que vulnérabilité. Et l'homme, il a la possibilité de dire non. C'est ce que saint Augustin dit. Tu as été fait... Dieu t'a créé sans toi, mais il ne te sauvera pas sans toi. Donc, il a décidé ça. Donc, si on a la possibilité de dire non à Dieu. Le salut, on peut le refuser. L'amour de Dieu, on peut le refuser. Donc, la liberté va jusque-là. Mais Dieu, ben, il prend les coups. Il accepte. Il saigne, mais il accepte. Et il me dit quand même, viens. Tu peux continuer à me faire du mal, je continuerai à t'aimer.
Alors nous, on va se retrouver la semaine prochaine, et puis tout ce mois de mars, Daniel Desbois, avec ce livre, « Ô Jésus de grâce, change-moi, Seigneur, libère-moi de moi ». Avant de vous retrouver la semaine prochaine pour notre vivante église, je vais vous demander pourquoi vous avez écrit ce livre, et à qui s'adresse-t-il ? Que des croyants, pratiquants ou non, Daniel Desbois ?
Alors je l'ai fait surtout pour les chrétiens. C'est-à-dire les gens qui sont engagés sur un chemin dans les pas du Christ. Et c'est-à-dire qu'en fait, ce qui a fait l'objet du livre, c'est ça, c'est que les personnes en difficulté dans les épreuves qui vont faire des sessions spirituelles, donc qui font des sessions spirituelles où elles sont libérées, délivrées, guéries, elles sont heureuses, elles touchent la joie, la promiscuité avec le Christ, etc. Elles arrivent, elles sont tellement heureuses, elles arrivent à la maison. ça se passe bien, elles apportent leur joie. Mais étant donné qu'on fonctionne dans un système, quand il y a 3, 4 personnes, 5 personnes, il y en a une qui arrive et qui, elle n'est plus la même. Elle met le bazar dans cet équilibre du système, dans cet équilibre tout simplement. Et curieusement, cette personne, elle vient avec la joie pour la donner. Et souvent, il y a résistance en face. Comme nous, nous avons la même résistance avec Dieu, elle se retrouve en résistance, parce qu'elle porte Dieu. Elle se trouve en résistance et puis elle va essayer de passer, elle va tenir. Et au bout de 3 mois, 6 mois, et c'est ça qui a fait l'objet du livre, j'ai entendu tellement de fois, Seigneur.
Seigneur, on peut dire aussi
oui,
Seigneur.
En s'adressant
oui.
au Seigneur. Oui. Et elles me disent, je suis redevenue comme avant. Alors qu'elles étaient heureuses, qu'est-ce qu'elles font? Elles refont une autre session spirituelle. Et elles redeviennent comme avant.
C'est toujours la même répétition.
Voilà, c'est ça.
Oui,
donc c'est ce qui a fait l'objet du livre. Et là, je m'adresse aux chrétiens parce que la voie, la psychologie, c'est une question que vous avez posée tout à l'heure, la psychologie a ses limites. C'est un pas, c'est bien, et heureusement qu'il y a ça, parce qu'elle donne sens. Mais la délivrance est spirituelle.
Alors on va en parler, et ce sera les rendez-vous que, chers auditeurs, je vous invite à suivre la semaine prochaine et la semaine d'après. Merci infiniment. Ce livre, on peut se le procurer, on peut le commander sur plusieurs plateformes, aux éditions Baudelaire, au Jésus de grâce, change-moi, Seigneur, libère-moi de moi. À la semaine prochaine, et merci.
Au revoir, Nathalie, merci.